je suis déjà intervenue hier, donc un certain nombre d'entre vous m'ont déjà entendu. On va vous parler avec Rick Bison de cette extraordinaire expérience du Centre Multiconfessionnel, l'occasion des Jeux de Paris. Moi, je vais juste dire quelques mots parce qu'on a fait le choix avec Jason de privilégier le témoignage. Voilà, c'est Jason qui va surtout vous parler de ce qui a été vécu sur le village. Moi, je voulais juste redire quelques mots sur la manière dont ce projet s'est construit. Comme je vous le disais hier, c'est à 2021 que Mgr Marseille, évêque auxiliaire de Paris, accompagné de deux laïcs, François Morinière et Arnaud Boutéon, c'est à ce moment-là qu'il a été rencontré, Tony Estanguet, les équipes de Paris 2024, pour se présenter. Voilà, dire ben, on est l'Église, on voudrait être au service des Jeux, parce qu'on a cette intuition que le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la croissance de la personne, et que ces Jeux qui arrivent seraient un moment très fort. Donc c'était dans un esprit de service. Et donc la réaction de ce que je vous disais hier, la réaction de Paris 2024 a été triple, une triple demande. Un, on a besoin de vous pour nous aider à monter une aumônerie. Deux, on a besoin de vous pour faire de cet événement un événement solidaire, un événement plus fragile. Et trois, on a besoin de vous pour mobiliser des jeunes. Alors, donc on va revenir sur ce premier point, c'est qu'on a effectivement découvert à ce moment-là que c'était dans le cahier des charges reçu par Paris 2024 d'ouvrir une aumônerie. Et que voilà, l'organisation du COJO était contente qu'on vienne les rencontrer. Donc, cette démarche de venir en fait un peu en tant que serviteur auprès du COJO a été très importante parce que les premiers liens avec Paris 2024 ont été très chaleureux, très, très favorables, très encourageants. Et j'ai envie de dire qu'on a après reposé toute notre démarche sur ces liens de confiance qui ont été créés grâce à ces premières rencontres. Parce que tout n'a pas été facile voilà, pour monter cette aumônerie. On a été bien sûr confronté à cette question de la laïcité, parce que je pense très sincèrement que Paris 2024 n'avait aucune envie d'avoir une aumônerie, que c'était compliqué et que la religion est vue comme un problème. Voilà. Donc nous, on était vraiment là pour montrer que le contraire, la religion est un objet de fraternité, un objet de rencontre avec soi-même, avec les autres. Donc tout n'a pas été facile. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plusieurs strates, il y a celle du COJO, puis il y a celle du CIO, et que très souvent, quand le COJO nous disait non, il se défaussait en nous disant « mais c'est le CIO qui ne veut pas ». Alors nous, on avait des relations en particulier avec le CIO, donc on savait que ce n'était pas toujours le CIO qui mettait des barrières. Donc il y a eu cette difficulté à gérer voilà, Paris 2024, et c'est souvent des histoires de personnes. Voilà, il y a vraiment des personnes qui vont bloquer les situations. Et il a fallu voilà, faire preuve de patience pour que ce projet puisse se lancer avec peut-être une première difficulté, c'est que même si on était en 2021, donc même 3 ans avant, on est arrivé un tout petit peu trop tard. C'est-à-dire que les plans du village olympique étaient déjà faits. Et donc l'aumônerie avait déjà été située au fin fond du village. Et ça, on n'a pas pu avoir d'impact là-dessus. On a pu négocier la taille des salles, on a pu négocier la réorganisation, on a pu négocier certains services, mais il s'avère, et ça aura un impact, c'est ce que Jason va partager avec vous, que l'aumônerie avait été placée au fin fond du village, le plus loin possible. La chance voudra que cette aumônerie s'est trouvée à 100 mètres d'une de nos églises, de Saint-Ouen-le-Vieux, qui était à l'extérieur du village, mais à 100 mètres, et qui nous a permis d'avoir un très beau lien ecclésial, d'avoir la messe célébrée à l'extérieur. Le deuxième point que je voulais évoquer était le lien avec les autres religions, puisque donc, au départ, nos réunions, nos 2-3 premières réunions étaient uniquement avec l'Église catholique et puis le COJO, et puis bien sûr, très vite, l'idée était de monter ce centre multiconfessionnel, donc c'était une grande richesse, et Jason nous en dira plus, mais ce que je voulais souligner, c'est peut-être les difficultés qui sont nées du fait de devoir travailler tous ensemble, à la fois une grande joie sur le plan fraternel, amical, et en même temps, une vraie réalité concrète, pas si facile que cela, à mettre en place. Et on a senti les premières crispations du COJO au fur et à mesure que les réunions avançaient, en fonction des demandes des uns des autres, voilà. Des demandes de repas spécifiques qui en fait n'avaient pas du tout été anticipées par le COJO, des demandes aussi de pouvoir se déplacer dans le village. Ils ont commencé à prendre un peu peur quand nos amis protestants ont dit bah, nous, en fait, on aimerait aller à la rencontre des athlètes. Nous, en tant que catholiques, on était plutôt dans une posture d'écoute, d'attente. Et puis les protestants ont dit bah, nous, on a envie d'être visibles, on a envie d'aller à la rencontre, on a envie d'annoncer le Christ. Et là, il y a eu des premières crispations. Donc voilà, tout ça a été des sujets intéressants qui nous ont interrogés sur la laïcité, sur la manière de pouvoir porter un projet de ce type en France. Et puis, j'en reviendrai justement à Jason, il nous a fallu nous organiser en interne dans l'Église, en se disant bah, qui est-ce qui sera responsable, côté catholique, de cette entité. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Monseigneur Marseille et Monseigneur Bobillard ont très vite identifié Jason comme la personne idoine, parce que Jason vient du Sérail, on en a un peu parlé à table, pour pouvoir accueillir des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, on parlait de haute performance tout à l'heure, il est bon que les personnes en responsabilité soient elles-mêmes issues de ce Sérail. Donc Jason, qui était à ce moment-là diacre, je te laisserai dire quelques mots sur ton parcours, vient du monde du judo et connaissait bien lui-même cette réalité de sportif de haut niveau. Et donc, dans le processus, en tout cas, d'élaboration de ce centre multiconfessionnel, le choix de Jason a été très important. Il était tout jeune, donc une mission quand même difficile, hein, puisqu'on était en lien avec le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes. Mission difficile et qui, certainement, t'a beaucoup fait grandir en tant que jeune prêtre, tout jeune prêtre. Et en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment prendre conscience de l'importance de faire porter ce type de projet par des personnes issues de cette réalité. Des personnes conscientes des fragilités dont on parlait tout à l'heure, des fragilités de ce monde du sport de haut niveau. Voilà ce que je voulais juste dire en introduction et donc je te laisse la parole.
Vous m'entendez bien, j'imagine. Déjà, tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est vrai que mon évêque avait comme première mission de faire une centre en bois académique. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple de se libérer, mais quand on a le doyen de la faculté qui est un prêtre du diocèse de Metz, ça facilite un peu les choses, si vous connaissez l'abbé Burguin. Mais je ne suis pas là pour parler de mes cours et de mes études, mais surtout pour parler de cette expérience que j'ai vécue au village. Et comme l'a dit Isabelle, c'est vrai que j'étais tout jeune prêtre, j'avais quelques jours d'ordination. Une fois avec le recul, j'aime bien dire en rigolant que j'ai pris 10 ans d'ordination en un mois et demi, mais je pense que ça me permet peut-être de mesurer la tâche qui m'a été confiée durant cet été au village olympique. Et souvent quand on m'interroge et que les personnes sont au courant que voilà, j'étais le référent pour l'Église catholique, ils me demandent souvent « quelle était ta plus belle rencontre ?» C'est une question qui est souvent venue. Et donc, des fois, je réfléchis, et en fait, spontanément, je pense à une rencontre qui m'a beaucoup bouleversé comme jeune prêtre. C'est la rencontre de Valentina, une athlète paralympique transgenre. Et c'est vrai que sa venue à l'aumônerie était comme un moment de grâce. Grâce parce que les premiers mots qu'elle a eus en arrivant à l'aumônerie étaient « pour moi fort ». Je viens ici dans ce lieu d'église, parce que je sais que c'est le seul endroit où je ne serai pas jugé. Je sais que le regard qu'on posera sur moi sera un regard bienveillant. C'est là que j'ai vu que cette rencontre avec Valentina me disait, je trouve, avec beaucoup de force, quel devait être le rôle de l'aumônier au village. Monseigneur Gaubière en a parlé tout à l'heure, mais c'est accompagner chaque personne, sans condition, quelles que soient ses origines, son parcours ou son identité. Et je trouve que déjà cette posture que l'aumônier doit avoir, Monseigneur Robien nous l'avait dit à la formation des aumôniers, puisqu'il y a eu toute une formation pour les aumôniers, mais j'en parlerai un peu plus tard dans mon propos, où il disait que le regard qu'il fallait porter sur les athlètes devait être le même regard que le Christ envers les pauvres. Et je trouve que cette vision, en tout cas, permettait de ne pas tomber dans une tentation de la starification. Car je pense qu'il faut le dire que être aumônier aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, il peut y avoir beaucoup de tentations, même si je trouve qu'être aumônier aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, c'est deux expériences différentes. Au JO, je pense qu'on l'avait aussi suivi, mais pendant les Jeux Olympiques, il y avait toute cette frénésie médiatique, où le village était sous tension, c'était même un bunker, j'ai envie de dire, coupée du monde pour protéger les athlètes, mais c'est en même temps le centre du monde, où chaque seconde était scrutée et on ressentait cette pression, constamment. On ne pouvait pas regarder les athlètes, limite pas leur parler. Tout était un peu compliqué, tout le monde était crispé. Alors que pendant les Jeux paralympiques, l'ambiance était tout autre, c'était même beaucoup plus calme, pas de stress, voire très peu. Il y avait beaucoup plus de spontanéité, de passage même au village. Ce qui est intéressant, ce qu'on a vu notamment à la fin des Jeux paralympiques, c'est que quand on compare les chiffres, il y a presque autant de présence pendant les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques. Sauf que les Jeux olympiques ont duré plus longtemps. Tout ça pour dire qu'on se rendait compte qu'en fait, même moi je vois bien dans la planification que j'ai faite pour mes aumôniers, j'avais prévu plus d'aumôniers pour les Jeux olympiques, en plus qu'à avoir plus de monde. Mais je pense que si je devais refaire l'expérience, je mettrais peut-être le double d'effectifs au para et beaucoup moins au JO. Tellement j'ai vu comment cette expérience, et ben, en tout cas liée au handicap et à la question de la fragilité, et même moins aux éclats de ces personnes qui n'étaient pas forcément des stars, permettait de voir que être aumônier, c'est tout simplement être au service. Mais pour mener cette mission, je n'étais pas tout seul. Et je sais que dans l'Assemblée, certains étaient là et ont été d'une grande aide. Mais l'idée, c'était de constituer une équipe d'aumôniers qui, pour moi, représente ce que pouvait être l'Église, avec un vrai esprit de collaboration ou même de co-responsabilité. C'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment avec toutes les questions, toute la synodalité. Et pour moi, c'est important qu'il y ait différentes postures d'écoute. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait peut-être des évêques, des prêtres, des diacres, religieux, religieuses, des laïcs. Il y avait même un couple marié qui était présent. Pour dire que tous pouvaient témoigner de leur vocation, mais surtout je voyais que cette expérience au village était aussi une manière pour après, pour l'après, parce qu'il faut aussi anticiper et se projeter un peu, de dire que toutes ces personnes, quelle que soit leur vocation, pourront témoigner qu'elles ont vécu cette expérience au village olympique. Alors, dans cette composition des aumôniers et dans les choix que j'ai pu faire, j'en profite pour remercier le père Pascal Gérard qui est présent, parce que à un moment donné, je l'avais quand même consulté s'il connaissait des prêtres, ou en tout cas des personnes qui avaient une appétence pour le sport, ou qui avaient déjà accompagné les athlètes. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon choix d'aumônier, donc j'en profite. Merci, merci beaucoup. Dans les choix d'aumônier, j'avais aussi François Chiron. Peut-être que récemment, vous avez vu son nom dans les médias, parce que il est l'un des entraîneurs de 2003-2007, et notamment il a accompagné Jimmy Gressier, qui a gagné récemment qui est champion du monde du 10 000, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Et il a contribué à cette journée de formation des aumôniers. Il était même présent au village, ce qui a permis d'avoir un peu ce lien avec l'INSEP, et surtout ce qui a permis à d'autres athlètes français de pouvoir venir à l'aumônerie du village, parce qu'ils savaient que François était là. Mais en même temps, quand on est dans une aumônerie et que 206 nations sont représentées, il faut parler plusieurs langues et des langues étrangères. Et notamment, nous avions 4 jeunes américains qui étaient venus, qui sont d'un mouvement missionnaire qui s'appelle Focus, et qui sont venus, et leur contribution était pour nous importante parce que, d'une part, on avait quand même des jeunes américains, et il faut savoir que les jeunes de Focus sont implantés dans les universités américaines pour une pastorale du sport. Donc là, eux connaissent bien ce milieu-là. Et puis même, on se disait que pourquoi pas même pour eux de vivre cette expérience à Paris, pour une préparation pour les Jeux Olympiques, maintenant dans 3 ans, à Los Angeles. Et ça, pour nous, c'était précieux d'avoir ces Américains avec nous, notamment pour toutes les questions autour de la barrière de la langue. Mais une fois cette équipe constituée, encore fallait-il, j'ai envie de dire, la former, parce que l'une des choses que je remarquais parmi la majorité des aumôniers, c'est que j'ai envie de dire que c'est des experts de l'accompagnement spirituel. Mais ces aumôniers n'avaient pas forcément de connaissance du monde du très haut niveau. Et c'est là où le lien à l'INSEP s'est, je veux dire, un petit peu fait, notamment avec le directeur général de l'INSEP, Fabien Camus, qui a permis que Laurence Mondel et Christine Rapp, qui sont ici présentes, ont pu, notamment pendant la formation, sensibiliser les aumôniers sur qu'est-ce que le sportif de haut niveau et ses singularités. Et nous avons aussi eu un point sur la laïcité, comme a pu l'évoquer Isabelle tout à l'heure. Mais Je me rappelle que lorsque j'ai lancé cette formation, je voyais déjà un peu plus loin que les Jeux Olympiques. Je me disais, voilà, ils reçoivent une formation, la pratique, ce sera pendant les JO, et pourquoi pas après. Et c'est là où je remercie Philippe, où je n'ai pas anticipé, mais je pense que cette question d'un certificat pour les dominés du sport est une avancée majeure si on pense une monnaie pour l'avenir, mais on a déjà un peu comme un terreau, j'ai envie de dire, grâce à cette expérience des Jeux Olympiques à Paris. Alors maintenant, si très concrètement, je reviens sur le village, comment la mission pouvait se vivre? Alors une journée au centre multiconfessionnel, c'est très simple. Le centre multiconfessionnel était ouvert de 8h à 22h, et la journée était organisée pour qu'il y ait deux créneaux de présence. Donc un de 8h à 15h, créneau de 15h à 22h, où chaque créneau, il y avait deux aumôniers et un référent. Et puis après, il y avait différents virements à peu près dans la journée. Donc le premier, c'était la messe à 9h en français à l'église de Saint-Ouen-le-Vieux qui était juste à côté du centre multiconfessionnel. C'est vrai que l'un des choix qui avait été fait, ce n'était pas forcément d'avoir la messe au village, comme la salle qu'on avait, qu'on partageait avec orthodoxes et protestants. On s'est dit, le fait d'avoir une église à proximité permettait d'avoir la messe dans une église et de vraiment habiter le centre multiconfessionnel et la salle des chrétiens comme un vrai espace œcuménique. Donc on avait la messe à 9h là-bas, puis après on revenait. À 10h, il y avait un temps de partage biblique, où là c'était un peu animé en alternance entre aumôniers protestants et catholiques, où là on partageait la parole ensemble. À midi, les aumôniers protestants, eux, proposaient un temps de louange et de partage biblique, où là, tous les aumôniers chrétiens étaient invités, souvent ils participaient, donc pouvaient chanter, pouvaient louer. Puis l'après-midi, pour la deuxième vague d'aumôniers qui pouvait arriver, il y avait un temps de partage à 16h. Et puis 19h, la messe le soir, où cette messe était célébrée en anglais, majoritairement en français, mais là, c'est là où le prêtre qui était présent s'adaptait en fonction des personnes qu'il pouvait y avoir en assistance. Donc ça, c'était une journée un peu type. Mais il y a la particularité du dimanche, où le dimanche, souvent je dis que l'église de Saint-Ouen-le-Vieux se transformait en sanctuaire. Se transformait en sanctuaire parce qu'on avait la messe à 9h le matin, on avait la messe paroissiale à 11h, toujours la messe de 19h, mais il y avait certains aumôniers, parce que certaines délégations venaient avec leur propre aumônier, et bien pouvaient réserver l'église pour avoir une messe dans leur langue. Et là, nous, les référents, en tout cas, moi, ça a été d'accueillir ces délégations, de pouvoir un peu les accompagner et de leur dire, ben voilà, vous avez l'église disponible à ce moment-là précis. Mais il me semble quand même qu'un des souvenirs qui, moi, me marque aussi au centre multiconfessionnel, c'était un midi où on a eu plusieurs athlètes qui sont venus et qui ont animé un temps de louange. C'est-à-dire que ce n'était plus les aumôniers qui animaient, mais c'était elles. Et c'était un très bon moment, très fort, où c'est là que je me suis rendu compte que, bah, en fait, elles ont compris que l'aumônerie, le centre multiconfessionnel, n'était pas qu'un espace sur lequel on peut se servir, mais c'était leur maison, quoi. Elles s'appropriaient le lieu et elles nous rendaient présent la présence du Christ. Elles rendaient le Christ présent en louant et en nous y invitant. Et c'est là que je me suis rendu compte que le village, en tout cas pour elle, ce centre, était plus qu'un simple lieu de prière, mais c'était aussi leur maison. Si je tire deux grandes leçons pastorales de cette expérience, je dirais que mon premier défi, ça a été tout d'abord comment rendre visible une pastorale lorsqu'on ne peut pas communiquer, notamment quand c'est interdit de pouvoir communiquer. Donc ça, c'était vraiment un vrai défi. Notamment parce qu'on ne pouvait pas aller voir les athlètes et on ne pouvait pas leur poser quelque chose, j'ai envie de dire, lorsqu'on était anglais dans le village. Donc il a fallu être stratège, mais là, c'est là mon côté sportif et judoka a pris le dessus pour cette mission. Mais stratégie qui s'établit de bien des manières. Je veux dire, le premier, c'est que j'ai rien fait parce que certains athlètes cherchaient eux-mêmes le centre multiconfessionnel parce qu'ils avaient besoin de trouver un lieu pour prier. Donc c'est eux-mêmes qui sillonnaient le village pour pouvoir trouver cet espace pour prier. Le deuxième, c'est tout simplement le bouche à oreille. Moi, j'avais la chance notamment d'avoir quelques amis athlètes français dans la délégation, notamment un bon ami qui a été champion olympique de judo. Lui, il venait me voir 3 ou 4 fois au village, et certains athlètes le voyaient partir à l'aumônerie, et comme ça, bah, le message s'est un peu diffusé. Pareil pour François Chiron, qui était tout à l'heure, ça a permis que d'autres athlètes puissent venir. Donc l'idée, c'est que si on ne pouvait pas bah, aller vers eux, au moins par ces athlètes, on se rendait, j'ai envie de dire, un peu plus visible. Enfin, j'ai envie de dire, ma troisième stratégie, c'était plutôt tout simplement le fait de porter la vie cléricale, qui était un vrai sujet pendant nos discussions sur la question de la visibilité. Notamment parce que dans les précédentes Olympiades, les aumôniers portaient la même tenue que les volontaires et avaient un brassard chaplaincy, là où Paris 2024 avait refusé. Donc nous, pour les presses, c'était assez simple, il suffisait de porter le col romain. Mais ce qui avait été décidé, notamment pour les aumôniers qui ne sont pas prêtres, ou évêques d'ailleurs, ou même diacres, c'était de porter un polo. Donc là, on avait tout simplement fait un polo de l'aumônerie, un polo bleu ciel, qui forcément, par rapport à l'avis des volontaires ou même à l'avis de délégation, pouvait aussi interpeller. C'est là où, en fait, tout simplement, ces signes permettaient d'être visibles, repérés, et cela pouvait porter, enfin, pouvait susciter des questions, même être interpellé. Si je raconte une anecdote, je me baladais pour aller déjeuner au village et j'ai croisé plusieurs entraîneurs de l'équipe olympique de boxe. Et j'ai une des entraîneuses qui se tourne vers moi et qui me dit: Vous êtes vraiment prêtre? Elle était tellement surprise de voir un prêtre au village. Et donc je lui dis: Bah oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa maman en FaceTime. Elle a dit: Bah voilà, maman, je suis avec un prêtre. Voilà. Pour vous dire que c'est qu'un simple signe, mais des fois ça permet de pouvoir se rendre visible et de pouvoir tout simplement témoigner. Et en même temps, j'ai bien vu que cet accompagnement pendant les JO est aussi très très ponctuel. C'est vrai que je pense que la majorité des chrétiens qui pouvaient venir à l'aumônerie étaient catholiques, et souvent ils demandaient vraiment des choses très précises, les horaires de messe, je vais rencontrer un prêtre pour me confesser. Ou bien ils pouvaient venir tout simplement pour échanger, mais j'ai toujours l'impression que c'était quand même plutôt des catholiques convaincus qui savaient pourquoi ils venaient et qui répondaient vraiment à une demande et à un besoin personnel. Mais j'ai bien vu que cette pastorale, si j'appelle pastorale de l'instant, eh bien, elle montre aussi ses limites. Et notamment, c'est en discutant avec le père Johannes, qui est là et qui nous fait la joie d'être présent, que j'ai vu un peu la différence. Par exemple, lui, être aumônier de l'équipe d'Autriche, et bah, toute l'année, il accompagne les athlètes, il y a un lien qui se crée, il y a une relation de confiance qui est durable et qui permet un véritable accompagnement. J'imagine que ce modèle, en tout cas, qu'on a par l'exemple de Johannes ici, permet peut-être de creuser la question d'une pastorale du sport, en tout cas de l'aumônerie du sport, de voir comment accompagner dans la vie de tous les jours et pas seulement sur un événement précis où je trouve que l'accompagnement en fait est très bien, en tout cas une pastorale sacramentelle, je trouve, pour l'Église catholique. Enfin, je ne vais pas être plus long que ça, mais il me semble que je ne peux pas parler de mon expérience à l'aumônerie sans parler de l'expérience de la fraternité interreligieuse que j'ai pu vivre au village olympique. Notamment parce que, moi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de pouvoir un jour partager un café avec un imam, le lendemain avec un rabbin, le lendemain avec un moine bouddhiste. C'est une expérience assez exceptionnelle, notamment parce que au village, il y a des moments où, j'ai envie de dire, il y avait beaucoup d'absence. Il y a des journées où des fois, en tout cas pendant le début des JO, où on pouvait avoir un ou deux athlètes entre 9h et 22h. Donc j'imagine qu'il faut bien faire quelque chose le reste du temps. Et ben, ça a permis l'échange, la fraternité et le dialogue avec, j'ai envie de dire, des religions pour certaines, peut-être que je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir échanger. Et là, je trouve qu'il y a eu un bel échange et une belle connaissance de nos pratiques. Et ça, je trouve que c'est un point fort parce qu'on a vraiment donné le témoignage que par le sport, par cette aumônerie, on peut bâtir des ponts. Là où dans le climat qu'il y avait pendant les JO, notamment avec tout le conflit entre Israël et Palestine, on voyait bien que l'unité des religions au village était un socle et permettait de donner un témoignage fort. Enfin, j'ai envie de dire que Être au milieu du village, c'est une très belle mission. J'ai envie de dire que c'était tout aussi exigeant que d'être athlète de haut niveau, notamment quand on confie cette mission après, enfin, après quelques jours, en étant un bébé prêtre, comme j'aime bien dire. Mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est ce que a dit Monseigneur Gobière à la formation. Servir. Servir le Christ. Servir les plus pauvres, les plus fragiles, qui sont même parfois cachés derrière les médailles et derrière la gloire. Donc j'ai envie de dire ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu avec Holygens, cette aumônerie. Si ça peut servir pour les prochaines Olympiades, pourquoi pas? En tout cas, je trouve que dans cette mission, c'est vrai qu'on n'avait pas, j'ai pas forcément eu de retour de ce qui s'était passé à Rio ou à Londres, où du coup c'était un peu tout nouveau, comment bâtir avec rien. Et là, quand je vois que en cette fin de mission, on a déjà des liens avec les prêtres qui vont s'en occuper à Los Angeles, et même j'ai été contacté il y a quelques semaines par un prêtre anglican qui va sûrement planter quelque chose à Brisbane, je me dis que mine de rien, il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces Jeux de Paris. Et qui permet de pouvoir témoigner du Christ et de l'Évangile pour accompagner les sportifs de haut niveau.
Juste pour terminer, j'ai d'abord une petite anecdote à vous partager sur l'interreligieux. Vraiment, ça a été extraordinaire ces relations avec nos frères des autres religions. Il s'avère qu'on a eu une réunion une semaine après le 7 octobre et on s'est dit comment on va faire pour être tous ensemble autour de la table. Et entre chrétiens, on s'est appelé, on a fait une réunion entre nous en se disant bah, en fait, on va demander au COJO de changer les choses parce qu'il était prévu que juifs et musulmans soient dans les salles juste l'une à côté de l'autre. Donc on a dit, bah, on va leur proposer de se mettre au milieu. Et donc à la réunion qui a suivi le 7 octobre, voilà, au milieu de la réunion, on glisse qu'on peut tout à fait imaginer peut-être qu'il est opportun qu'on change la disposition. Et je me souviendrai toujours voilà, musulmans et juifs, disant, mais c'est hors de question, on va montrer au monde qu'on est capable d'être amis. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu, musulmans, juifs, chrétiens, tous ensemble. Cette fraternité, alors qui a été possible peut-être parce qu'il y avait des temps libres aussi, et qui continue à se vivre aujourd'hui. Pour terminer, voilà, on se projette déjà sur Acte 2030, et on se dit que voilà, ces Jeux de Paris ont été un tremplin extraordinaire pour poursuivre. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait contacté le COJO un peu trop tard, même si c'était pris 3 ans à l'avance. Donc là, on va le faire très très vite. Il y aura 5 villages olympiques aux Jeux de Alpes 2030, donc ça veut dire pas mal d'aumôniers. Et grâce à voilà, ces 40 aumôniers qui ont déjà vécu cette expérience, et puis grâce au travail qui nous sera présenté tout à l'heure, on est déjà en train de réfléchir à constituer une nouvelle aumônerie pour les Jeux de Alpes 2030. On a donc dès la semaine prochaine une réunion avec les 4 diocèses concernés par les prochains Jeux. Voilà.